franceinter.fr. La revue presse de Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. On a l'habitude de dire que ça ne sent pas la rose dans le métro parisien. Mais dès lors, ça sent quoi ? La transpiration, répond-on souvent mécaniquement. Et pourtant, ce n'est pas que cela. C'est bien plus que cela, plus subtil, compliqué, mélangé, passionnant. Comme en témoigne le récit que livre Céline Helena dans l'étonnante revue Née. Née, une revue olfactive dont sortira la semaine prochaine le deuxième numéro. Céline Helena se définit comme une voyeuriste des odeurs, ce qui signifie qu'elle exerce le métier de parfumeur. Elle est créatrice de parfums et pendant 3 heures, elle s'est donc baladée dans les couloirs et les sous-sols de la RATP, inspirant, gobant, grimaçant parfois et notant dans un carnet tout ce qui lui passait par le bulbe. Des odeurs de photocopieuses, de bananes ou de pain grillé, des odeurs de plâtre, de moisissures ou de fraises. Elle dresse le portrait olfactif d'une quinzaine de stations. Station République, effluve de désinfectants des sièges et des sols, relents des machineries, shampoing à la vanille, miasme de l'urine des rongeurs, huile de friture et beurre noisette. Barbès rochechouart, fiente de pigeon, remugle de cambouis, eau de toilette à la lavande, détergent aromatisé au muguet citronné, station Pont-Marie, bouchon de liège et serpillière, l'odeur de la maison de papier et mamie. C'est un reportage très éclairant, qui donne donc à voir et à sentir différemment des lieux qu'empruntent tous les jours 4 millions de personnes. Et c'est donc à lire dans l'aromatique revue Née. Toutefois, dans les journaux ce matin, pas d'odeur de photocopieuse de banane ou de pain grillé. Ce qui domine plutôt, ce sont les parfums de la campagne électorale, la campagne pour l'Élysée. Même si dans la presse régionale, les unes sont surtout consacrées à la cérémonie d'hommage organisée hier à Nice.
Des roses blanches pour les victimes, titre la Dépêche du dimanche.
86 victimes et des centaines de blessés. Hommage en 86 roses, commente le courrier Picard, tandis que la Provence évoque 86 roses pour ne pas oublier. Dans le Figaro, on peut lire cette citation de Marguerite Duras. « La confirmation de la tristesse est une consolation », phrase tirée de son roman « Un homme est venu me voir ». Et c'est bien une confirmation de la tristesse, donc une consolation qu'apportent à leur manière les cérémonies d'hommage, comme celle qui a eu lieu pour les victimes de l'attentat du 14 juillet. Cérémonie poignante, mais cérémonie apaisante, peut-on lire ce matin. Un climat apaisé et un chef de l'État qui a assuré que l'entreprise maléfique des terroristes échouerait. À ce propos, le JDD révèle ce matin ce qu'ont coûté aux terroristes leur tuerie de l'an dernier. Chiffre donné par une étude du Centre d'analyse du terrorisme. Après avoir épluché les comptes de Koulibaly, Kouachi, Abdeslam et consorts, armement, logement, véhicules, faux papiers, les tueurs de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher auraient dépensé moins de 26 000 euros pour préparer leurs attentats. Ceux du Bataclan et des terrasses du 11e auraient dépensé 82 000 euros. Quant au budget de l'attentat perpétré sur la promenade des Anglais, il n'a pas dépassé les 2500 euros, somme suffisante pour acheter une arme et louer pendant 3 jours un camion de 18 tonnes. Terrorisme, low cost, en somme, et au final un crime de masse.
Les journaux soulignent aussi que dans son discours, François Hollande a salué le travail effectué par les magistrats.
Des magistrats qu'il avait sacrément vexé les taxants de lâcheté. Une phrase rapportée dans le livre écrit par 2 journalistes du Monde. Livre judicieusement nommé. Un président ne devrait pas dire ça, mais en l'occurrence il l'a dit. Et il a dit aussi multitude de choses dans ce pavé de 700 pages qui, avant même sa sortie, a sidéré, voire consterner les commentateurs politiques et même les élus de son camp, d'où la une ce matin du journal du dimanche, l'après Hollande a commencé. Selon le sondage IFOP publié par l'hebdomadaire, près de 9 Français sur 10 estiment que François Hollande ne doit pas se représenter à l'élection de mai prochain. Ulcéré par la publication de ses confidences, plusieurs dirigeants du PS en appellent même maintenant directement à Manuel Valls. C'est le cas notamment du député Malek Bouti. Pour lui, le Premier ministre est le seul à pouvoir incarner une candidature alternative à celle de François Hollande. Photo du président de la République à la une de Politis. Et s'il n'y allait pas, s'interroge l'hebdomadaire, précisant que l'hypothèse désormais plausible rebattrait les cartes d'un jeu qu'on croyait verrouillé. Cependant, Il en est un qui milite haut et fort pour que le chef de l'État candidate à sa succession, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, explique-t-il au JDD, Hollande doit se représenter. C'est même nécessaire pour la démocratie. On en perçoit ici comme une petite délectation à l'idée du score que pourrait obtenir le chef de l'État, sachant qu'aux yeux du député européen, tout candidat PS qui aurait gouverné avec lui doit maintenant assumer la sanction collective dans son viseur. Arnaud Montebourg. Pour Mélenchon, aucun ancien ministre ne peut dire « Moi, je ne suis pas impliqué, ni responsable, ni coupable. Amnistie générale. » Quant à Emmanuel Macron, il estime qu'il est un libéral de droite. Elle compare à Attila face aux conquêtes sociales. Il veut, dit-il, détruire tous les acquis des salariés, annonçant par ailleurs que pour l'heure, il a recueilli 270 parrainages pour la présidentielle. Il répète que le PS veut bloquer sa candidature. Une candidature qu'il peaufine en ce moment dans le Nord. C'est ce midi à Saint-André-les-Lille qu'il conclut la convention de son mouvement La France Insoumise. Heureusement qu'on est là. Voilà ce qu'il devrait dire, sans oublier de préciser qu'il s'exprime sur les terres natales du mouvement ouvrier. Pendant 36 heures, un millier de participants venus de toute la France auront planché sur le programme et les thèmes de sa campagne. Une ambiance studieuse que décrit Sébastien Leroy dans La Voix du Nord, réunis par table de 6. Les Insoumis, comme ils se désignent, font tournoyer leurs stylos sur des carnets à spirale. On est à l'essorage final d'un travail de proposition citoyenne recueilli depuis 8 mois, de l'abrogation de la loi travail à la mise en œuvre d'une nouvelle constitution, en passant par la renégociation des traités européens. Pour l'essentiel, les rédacteurs sont issus du parti de gauche, d'autres sont issus du PC, mais tous partagent le même rêve, un Podemos à la française.
Et à droite, Juppé a-t-il déjà gagné?
C'est la question que pose à Saïn Le Parisien. À 5 semaines du premier tour de la primaire, le maire de Bordeaux conforte son avance sur Nicolas Sarkozy, qu'il battrait même et largement au second tour, d'après l'Institut Ipsos, il recueillerait 61% des voix contre 39% pour le mari de Carla. Au chapitre politique, on notera par ailleurs cet appel du pied de Macron à Juppé dans une interview publiée sur le site de Challenge. Emmanuel Macron évoque les convergences qu'il a avec Alain Juppé et il juge même que celui-ci incarne ce qu'il appelle une droite progressiste. On n'entend pas ça très souvent. On notera également cette déclaration de Ségolène Royal. Il vaut mieux arrêter les frais. C'est dans le JDD. Et elle s'exprime ici sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, alors que l'expulsion des opposants présents sur le site est programmée pour cet automne. La ministre de l'Environnement alerte une nouvelle fois sur le risque d'une évacuation par la force devant le blocage de la situation. Ségolène Royal en appelle au bon sens de chacune des parties, et notamment à celui des élus locaux. Autrement dit, on laisse tomber, c'est ce qu'elle préconise, plaidant pour un aménagement de l'aéroport actuel. Pas certain que Jean-Marc Ayrault, pas plus que Manuel Valls, apprécie le propos. Ça sent l'explication de gravure dans les rangs du gouvernement. Et pour Donald Trump, ça sent quoi? Un peu la fin. Apparemment, pour preuve les arguments de sa fin de campagne, il demande maintenant que soit réalisé un contrôle antidopage pour Hillary Clinton. Ses partisans ne sont d'ailleurs pas vraiment plus inspirés, comme le relève Claire Levenson sur Slate.fr. Les partisans de Trump expliquent que ses remarques sexistes ne sont finalement pas pires que les chansons de Beyoncé, par exemple, laquelle Beyoncé soutient la candidature de Hillary Clinton. Mais jusqu'à preuve du contraire, Beyoncé n'est elle-même pas candidate à la Maison Blanche. Enfin, je vous conseille la lecture sur le site Les Jours de l'enquête de Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts sur le climat à iTélé. La direction de la chaîne est prête aujourd'hui à payer les journalistes qui s'opposent à l'arrivée sur l'antenne de l'animateur et journaliste Jean-Marc Morandini, les payer pour qu'ils s'en aillent. S'ils ne partent pas, ils se taisent. Ça sent l'intimidation, ça sent la menace, ça sent d'autres choses aussi, mais je ne peux pas les décrire, je n'ai bouché.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.